VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel, dans 10 minutes Sahel plus avec Claire Morin-Gibault, mais tout d'abord le journal. RCA, alors que le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est à New York pour la cérémonie de signature à l'ONU de l'accord de Paris sur le changement climatique, les violences continuent à Bangui. Les toutes dernières en date ont eu lieu aujourd'hui dans le PK5, ultime bastion musulman dans la capitale, le résultat d'une dispute entre deux habitants du quartier, nous dit notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Les deux hommes étaient jusque-là des amis, mais cette matinée de vendredi aurait été le pire moment de leur histoire. Après des échanges verbaux, chauds et agaçants, l'un sort son couteau et poignarde à mort l'autre. Alertés, les proches de la victime, munis d'armes de guerre, ont violemment réagi en tirant en l'air, pourchassant l'assassin de leur frère. Les crépitements d'armes retentis pendant quelques moments ont créé la panique dans le PK5, notamment au Grand Marché et ses environs où les activités ont été momentanément paralysé. Un homme atteint d'une balle perdue a été dépêché d'urgence à l'hôpital général de Bangui. Un autre proche de la victime, qui était muni d'une grenade, a perdu l'un de ses bras suite à l'explosion de sa grenade mal dégoupillée. Le calme est revenu après l'intervention de la police de la MINUSCA, appuyée d'un hélicoptère de combat qui a survolé pendant quelques heures la zone sous tension. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Élection présidentielle au Tchad. Face à 12 candidats, le président sortant Idriss Déby Itno a remporté le scrutin du 10 avril au premier tour avec 61,56% des voix, selon les résultats provisoires de la CENI, la Commission électorale nationale. Mais l'opposition tchadienne, qui dit maintenir son unité face au pouvoir en place, affirme avoir d'autres résultats pour ce scrutin. Le point avec notre correspondant N'Djamena, André Kodmajingar.
Parmi les 12 candidats de l'opposition qui semblent faire alliance pour affronter le président Déby en cas de second tour sont divisés. 5 d'entre eux ont déjà appelé l'heureux gagnant pour le féliciter. Finalement, il n'en reste que 7 qui réitèrent leur volonté à défendre la vérité des urnes. Dans un communiqué de presse sanctionnant la rencontre de l'opposition ce vendredi, lu par le chef de file de l'opposition Salé Kebzabo, les résultats dont il dispose et qui seront publiés incessamment contredisent les chiffres avancés par la CENI. Et donc, précise-t-il, les 7 candidats qui sont encore restés fidèles réaffirment leur refus de reconnaître le hold-up électoral et l'institution qui en émane. Peu avant la sortie médiatique de l'opposition, le premier ministre chef du gouvernement Paimi Padake Albert est dur.
Si la contestation par voie légale des résultats provisoires d'une élection est un droit, il n'en demeure pas moins que toute tentative d'atteinte à l'ordre public se heurtera à la rigueur froide de la loi.
Mais Salé Kebzabo appelle donc la population à sauvegarder jalousement sa souveraineté. Car, dit-il, les Tchadiens vont vivre dans les jours à venir les conséquences incommensurables de cette mascarade. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Au Burundi, le parquet a demandé aujourd'hui la perpétuité pour tous les 28 présumés putschistes jugés dans le procès devant la cour d'appel à Gitega, dans le centre du pays. Les 4 généraux condamnés à la prison perpétuelle en première instance, dont l'ancien ministre de la Défense Cyril Ndaï Urukiye, reconnaissent leur participation dans la tentative de coup d'État pour, disent-ils, sauver la nation en danger. Mais ils affirment n'avoir tué personne ni détruit aucun édifice. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Après 9 jours d'audience publique, le procès en appel des présumés putschistes de mai dernier s'est clôturé ce vendredi. Le parquet demande une réclusion à perpétuité pour les 28 présumés putschistes. En outre, le procureur demande leur interdiction de travail dans la fonction publique pendant 20 ans. Le ministère public a essayé de convaincre la cour sur le lien entre le coup d'État du 13 mai dernier et les manifestations anti-troisième mandat. Le présumé numéro 2 du putsch manqué, le général Cyril Ndaï Urukiye, qui a plaidé coupable de tentative de coup d'État sans la présence de son avocat, encore une fois affirmé qu'il cherchait le retour à la légalité constitutionnelle, car l'accord de paix et de réconciliation d'Arusha venait d'être violé avec le troisième mandat controversé du président Pierre Nkurunziza. Le général Ndaï Urukiye indique avoir agi pour défendre la population, alors que les manifestations pacifiques contre le troisième mandat du président Nkurunziza étaient durement réprimées par certains membres de la police et de l'armée burundaise. Mais il nie toutes les autres accusations de destruction des bâtiments et d'assassinat de 41 policiers et 9 militaires, et par conséquent ne pourra pas payer les dommages et intérêts estimés à plus de 10 millions de dollars américains. La cour d'appel de Gitega a déclaré qu'elle va rendre le jugement en ayant 30 jours. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La justice française qui enquête sur les conditions d'acquisition des riches patrimoines en France de plusieurs chefs d'État africains a saisi plusieurs biens immobiliers appartenant à la famille du président gabonais Ali Bongo Ondimba à Paris et sur la Côte d'Azur. Les juges d'instruction ont pris le contrôle d'une société civile immobilière détentrice d'une villa à Nice et d'un hôtel particulier dans le quartier Huppé du 16e arrondissement à Paris.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, fin de cavale pour le djihadiste Fawaz Ould Ahmeda, dit Ibrahim Diss. Il a été arrêté dans la nuit du jeudi 21 avril à Bako di Koroni Golf dans l'agglomération de Bamako. Et ce, grâce à une opération de la force spéciale de la DGSE malienne. Ibrahim Diss, de nationalité mauritanienne, n'en est pas à son premier attentat sur le territoire malien, mais l'attaque qu'il avait préparée pour ce week-end à Bamako a été déjouée par son arrestation. Des précisions avec notre correspondant dans la capitale malienne, Kassim Traoré.
Arrivé à Bamako le 16 avril 2016, logé dans un appartement qu'il payait à 65 000 francs CFA, le terroriste Fawaz Ould Ahmeda, dit Ibrahim Diss, est de nationalité mauritanienne, de teint un peu noir. Il a été arrêté par la DGSE malienne ce 21 avril à Bako di Koroni Golf, alors qu'il s'apprêtait à commettre un attentat sur les cibles occidentales ce week-end à Bamako. Ibrahim Diss est le chef des opérations d'Al-Mourabitoun. Il est aussi l'auteur de l'attentat de la Terrasse en mars 2015 et planificateur principal des attentats de Radisson, de Sévaré et de l'hôtel Nord-Sud. Lors de son arrestation à Bako di Koroni, un important lot d'explosifs, des armes de guerre ont été retrouvés à son domicile. Suite à sa première interrogation, il avoue être le tireur de la Terrasse, le commanditaire de Radisson et le premier à infiltrer l'hôtel Biblos de Sévaré. Il est venu pour réparer l'attaque contre la base de l'EITM qui, selon ses chefs, a été un échec. Par ailleurs, les trois humanitaires du CICR kidnappés depuis le 16 avril à Abeibara par Ansardine ont été libérés. En contrepartie, l'opération militaire française Barkhane a libéré les quatre personnes suspectées terroristes à Kidal, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Mauritanie, la cour d'appel de Ouagadougou a renvoyé l'affaire Mohamed Nkeytir devant la Cour suprême. Ce blogueur de 33 ans accusé d'apostasie a été condamné à mort en décembre 2014 dans un blog. Mohamed Nkeytir avait critiqué ceux qui utilisent l'islam pour justifier le phénomène des castes. Au micro d'Idriss Fall, les explications de Maître Fatima Tambay, avocate de la défense du blogueur mauritanien.
Le tribunal a disqualifié le crime d'hérésie au crime d'apostasie. En même temps, il a décidé de faire renvoyer le dossier devant la Cour suprême pour que cette dernière s'assure de la sincérité et de la repentance de notre client de Mohamed. Et nous, à notre grand titre, c'est qu'il y a une confusion dans le libellé du prononcé du jugement. La Cour a prononcé en même temps sa condamnation à mort, ce qui est impossible dans le cas où il y a disqualification et renvoi du dossier devant la Cour suprême. Une fois cet acte fait, au maximum, la cour d'appel aurait pu condamner Mohamed à 2 ans d'emprisonnement maximum. Et donc, il y a une confusion, le fait que la cour ramène la condamnation à la peine capitale à partir du moment où ils ont renvoyé le dossier devant la cour pour confirmer sa repentance. En tant qu'avocat, on suivra la procédure.
Maître Fatima Tambay, avocate de la défense de Mohamed Nkeytir, le jeune blogueur mauritanien condamné à mort pour apostasie. Et puis 4 mois après l'euphorie de la COP21, la conférence internationale sur le climat, 171 pays sont aujourd'hui au siège de l'ONU à New York pour signer l'accord de Paris sur le changement climatique, un traité international qui est censé ralentir le réchauffement de la planète. Jacques Aristide.
Une grande messe onusienne à laquelle doivent prendre part plus d'une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement, de même que des dizaines de hauts responsables. Cette cérémonie de signature fait suite au succès de la conférence de Paris sur le climat en décembre dernier. Jamais un accord international n'aura été signé par autant de pays en un seul jour, a déclaré la ministre française de l'Environnement, Ségolène Royal, qui préside la COP21. Mais la partie est loin d'être gagnée, car pour entrée en vigueur, l'accord de Paris doit être ratifié par au moins 55 pays représentant ensemble au moins 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Et pour terminer, les hommages continuent d'affluer du monde entier au lendemain de la mort brutale à 57 ans du chanteur américain Prince, musicien de génie qui a marqué des générations de fans décédés dans des circonstances encore mystérieuses. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Bonne soirée, bon week-end.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.